Chapitre 2. Catherine partit le surlendemain. Jusqu'au dernier moment, mademoiselle Mathilde avait espéré que le mauvais temps la retiendrait. Mais rien n'y fit, et à 9 heures, ayant servi le petit déjeuner, rangé les bols sur le buffet et enveloppé le pain dans une serviette, elle vint prendre congé. Elle avait pour tout vêtement, sous ce froid de décembre, la robe mince qu'elle portait le jour qu'elle ne s'était pas cintrée, avec en plus un fichu de laine noire qui couvrait ses épaules et se nouait dans le dos. Cependant, un air de bonheur était répandu sur toute sa personne. De colère, mademoiselle Solange dut caloter. Mais il leur restait encore la chance fragile qu'elle revînt, et ne voulant pas la perdre, elle esquissa une manière de sourire en réponse à ses adieux. Catherine traversa le jardin, ouvrit la porte, la sonnette fit entendre un petit bruit cotonneux, et le silence retomba. Le 26, dans l'après-midi, et comme elle l'avait assuré, elle revint, apportant en cadeau une poule et des œufs de chez ses parents. Mademoiselle Solange la remercia brièvement, car il lui déplaisait d'être l'obligé d'une servante. Mademoiselle Mathilde, soulagée d'une grosse inquiétude, elle aurait juré que la fille ne reparaîtrait plus, lui fit un accueil moins réservé. Sa sœur le lui reprocha en termes hautains. « Mais on ne parle pas à ces gens autrement que pour leur donner des ordres. » Après quoi, l'existence reprit toute pareille. En ces 3 mois d'absence, l'ouvrage s'était accumulé et Catherine dut travailler sans presque prendre de repos pour regagner le temps perdu. Mais la fatigue semblait n'avoir pas de prise sur elle. Cependant, avec la semaine finissante, elle donna des signes de lassitude et de distraction. Il arriva qu'à diverses reprises, mademoiselle Solange dut lui faire observer que la neige n'avait pas été balayée devant la porte, ou que les miettes de pain traînaient sur la table de la cuisine. Ce n'était que détails. Ils suffirent à souligner un changement dans son regard, sa façon de répondre, une sorte d'inquiétude qui la faisait traverser le jardin sans raison, regarder sur la route, ou bien encore, pendant qu'elle balayait le salon, s'arrêter et soulever le rideau. Un jour que ces demoiselles, aidées d'une leur servante, rangeaient des pommes dans le fruitier, la sonnette de la porte tinta. Une visite était ici chose si insolite que toutes trois demeurèrent immobiles. Catherine, essuyant ses mains à son tablier, se disposa à les ouvrir. Déjà, elle arrivait au seuil. Mademoiselle Solange, traversée d'un soupçon, l'arrêta. « Restez, j'y vais !» Catherine rougit. Mademoiselle Mathilde remarqua que ses mains tremblaient et dit « Mais qu'est-ce que vous avez ?»« Au moins rien, » balbutia la fille. Les yeux de la demoiselle semblèrent se faire plus petits, comme il arrivait chaque fois qu'elle concentrait sa méfiance. Il n'était plus alors que 2 points noirs cerclés de jaune, d'un éclat si aigu qu'on en pouvait soutenir la fixité. Mademoiselle Solange entra, les sourcils rapprochés. « Qu'est-ce que c'est ?» s'enquit mademoiselle Mathilde. « Oui, un mendiant. » Après quoi, elle disposa encore quelques pommes sur la planchette, ferma l'armoire à double tour et, suivie de sa sœur, regagna le salon. Sitôt qu'elles furent seules, mademoiselle Mathilde répéta la question qu'elle avait posée l'instant d'autre d'avant. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Mademoiselle Solange entr'ouvrit la porte, s'assura que Catherine n'écoutait pas, puis tira une enveloppe de dessous son fichu. « C'est une lettre pour Catherine. »« Une lettre pour Catherine ? » ?»« Oui, parfaitement. »« Mais de qui cela peut-il être ? » ?»« Ah, voilà !» Elle restait debout, face à face, avec entre elles l'enveloppe posée sur le guéridon. Depuis des années, le facteur avait désappris le chemin de leur maison. Il fallait que ce fût pour cette fille de miséreux qu'il le retrouva. Aussitôt leur esprit envisagea diverses hypothèses. Ses parents qui la rappellent, des gens qui lui offrent plus cher que nous pour la prendre à leur service. Cela leur parut l'évidence même, et Mademoiselle Solange ne manqua pas de souligner sa prévoyante sagesse. Mais avait-ce raison de ne pas vouloir lui accorder ce congé? C'était fatal, elle a vu d'autres filles. C'est Diaroles Constantrel se monte la tête. Oui, mais si on ne lui avait pas permis, elle nous aurait plantés là. Mais j'aurais préféré, prononça Mademoiselle Solange. La rage d'avoir cédé une fois lui faisait oublier l'ennui de perdre une domestique qu'on prenait d'avoir si bien asservie. Les grandes passions de la vie lui demeuraient étrangères. Elle n'appliquait son orgueil de Saint Béodat qu'aux faits mesquins de l'existence quotidienne. Mademoiselle Mathilde jeta les yeux sur la souscription de l'enveloppe et plissa la bouche. Ce ne sont pas des gens de qualité. Mademoiselle Solange réfléchissait. Sa sœur reprit. Alors, qu'allons-nous faire? Me la chasser? Oui, mais si ce n'était pas ce que nous croyons, ensuite nous serions bien avancés. Oh, je suis d'avis, moi, de ne rien brusquer. Eh bien, moi, je suis d'avis d'ouvrir cette lettre. Il était rare que Mademoiselle Mathilde contredît son aînée. Cette fois, cependant, elle se permit de soulever une objection. Ouvrir une lettre était chose grave, que la morale et les juges défendent et punissent. Mademoiselle Solange, criant qu'elle se moquait des juges et que, quant à une morale qui permet les abominations de la chair, ensuite elle passa à des arguments plus précis. La duplicité de Catherine ne faisait pas de doute. Dès lors, quels égards méritait une fille capable de dissimuler ainsi, ou des gens assez indélicats pour tenter de débaucher une servante chez ses maîtres? Mademoiselle Mathilde en convint, autant pour forcer de l'argument que poussé par la curiosité, et tendit les ciseaux. Mais Mademoiselle Solange se ravisa. « Oh non, 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 pas ainsi. Ce soir, à la vapeur. » Ayant glissé l'enveloppe dans son corsage, elle s'assit. Quand la nuit tomba, Catherine vint prendre place à leur côté. Ces deux heures de travail en commun leur parurent interminables. À chaque mouvement qu'elle faisait, Mademoiselle Solange croyait entendre l'enveloppe craquer entre son corset et sa chemise, et s'il arrivait que Catherine, courbée sur son ouvrage, cambra le buste pour se délasser, Mademoiselle Mathilde baissait vivement les yeux sur son tricot. Puis ce fut l'heure du dîner, la dégustation traditionnelle du tilleul rose, et la demie de 8 heures sonna. Catherine allait et venait toujours dans la cuisine. « Mais qu'est-ce qu'elle fait ?» grommela Mademoiselle Solange, oubliant qu'elle-même avait ordonné le matin, avant l'arrivée du facteur, qu'on récurât les cuivres. Enfin, Catherine éteignit sa lampe. On entendit son pas dans l'escalier et le grincement de la porte. Alors, sur la pointe des pieds, elles entrèrent dans la cuisine et mirent de l'eau à chauffer. Dès qu'elle fut bouillante, Mademoiselle Solange tira la lettre de son sein et la tendit à la vapeur. Bientôt la pointe se souleva. Mademoiselle Solange la tira prudemment entre le pouce et l'index, et le triangle entier suivit. Elle n'avait pour s'éclairer qu'une chandelle et la flamme bleue de la lampe à alcool, et comme leurs mains tremblaient, d'abord elles ne purent déchirer et déchiffrer les lignes tracées d'une encre pâle en lettres mal formées. Malgré cela, Mademoiselle Mathilde parvint à lire, penchée sur l'épaule de sa sœur. À Mademoiselle Catherine. J'ai gardé si bon souvenir des moments que nous avons passés ensemble que je serais bien venu vous dire le bonjour un de ces soirs, mais comme vous m'avez dit que c'était dangereux, je me contente de vous envoyer cette lettre par la poste. Toutefois, si je pouvais venir ce que vous pourriez, Vous pourriez de votre côté trouver un moment, ça me serait bien agréable. Recevez les plus tendres baisers de votre ami Félix Chenevoix. » Mademoiselle Solange s'attendait à tout hormis à cela, et l'indignation lui arracha un cri. « Oh, la saleté !» Cette misérable et ce gueux se seraient accouplés sous ses yeux. Son dégoût n'eût pas été plus violent. Elle étranglait de colère. Les mots lui semblaient orduriers, les phrases pleines de sous-entendus obscènes. Et c'était pour ça que cette fille leur avait mis le marché en main. 3 mois de sagesse, de propreté, c'était trop pour cette ordure. Les enfants à soigner, les parents à embrasser, oui, da. Un homme pour se rouler sur elle, un mâle, ni plus ni moins qu'une chienne. Et je te dis qu'elle sentait l'homme quand elle est revenue. Oh, ils ont dû s'en payer de leur saleté pendant 2 jours. Mademoiselle Mathilde écoutait sa sœur évoquer de monstrueux tableaux, comme au jour qui avait suivi son veuvage. Mais alors elle ne comprenait pas. Les mots de péché, de luxure, ceux plus précis de blessures horribles, de pénétrations sauvages, étaient pour elle dépourvus de sens. À les entendre, elle se sentait à la fois glacée d'épouvante et mordue par une curiosité inavouable. Combien de fois, le soir, regardant Solange se dévêtir, n'avait-elle pas cherché à découvrir sur son corps la trace de ses violences détestables? Combien de fois, les nuits d'été, faisant semblant de dormir, n'avait-elle pas allongé en travers du matelas jusqu'à le dépasser du buste, guetté le geste qui fait les cuisses se détendre sous la pesanteur du drap, et la repousser pour surprendre le secret de cette blessure et le sceau dont l'acte le marque? Mais jamais le voile ne s'était entrouvert. Et voici que maintenant, perdant toute mesure, soulevée de colère, Mademoiselle Solange le déchirait en larmes, termes crues, commentant ses imprécations de hoquet et de gestes, mimant l'accouplement, attestant son ventre stérile, sa bouche arrachée au baiser et ses mamelles sèches d'une ignominie expiable. Son ton se haussait au point qu'elle dut la calmer. Mais regarde, elle pourrait entendre. Oh, qu'elle entende, ou plutôt. Je vais l'empoigner moi-même et la flanquer dehors. Plus de pourriture dans cette maison. Elle se ruait vers la porte. Une fenêtre mal fermée s'ouvrit et un vent glacial s'engouffra dans le corridor, chassant la neige sur les carreaux. Écoute, murmura Mathilde, peut-être vaut-il mieux attendre. Il fait si froid. Mais qu'elle crève! Gronda Mademoiselle Solange. Oh non, je ne me préoccupe pas d'elle, mais de nous. L'hiver commence, mesure ce qu'il en reste. Janvier, février, mars, avril, peut-être. Souviens-toi, il y a 2 ans, quand il faisait cesser la glace, c'est la glace. Et puis, au dégel, l'eau qui coulait de partout, le linge qui séchait pas, les sabots qui s'enfonçaient dans la boue. Non, vois-tu, le plus sage est de patienter. Et au premier beau jour, eh bien, nous la reverrons. Jusque-là. Mademoiselle Solange refusait encore. Sa sœur dut lui dépeindre sa mauvaise santé, évoquer cette pleurésie dont elle avait manqué mourir. Alors, peu à peu, elle faiblit. Restait la lettre. Bon, la recachèterait tant bien que mal. Et la fille s'apercevrait de rien. La lampe vide s'était éteinte. La chandelle à demi fondue sur un de ses flancs dardait une flamme fumeuse. Dehors, 2 chats s'attaquèrent avec des miaulements féroces. Mademoiselle Solange y discerna comme un défi et cria « Oh non, 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 c'est pas possible !»« Allons, puisqu'au printemps nous la jetterons dehors. » Voilà que tu claques des dents, pourvu que t'aies pas attrapé de mal. Allez, couchons-nous, va. » Mademoiselle Solange obéit lentement, le front baissé. Au printemps. C'est maintenant, par cette immense et implacable nuit, qu'elle eût aimé chasser la bête immonde. Une lettre pour vous, Catherine. Mademoiselle Mathilde, qui faisait semblant de vérifier le carnet de dépenses, jeta un coup d'œil par-dessus ses lunettes, en prévision d'une question et pour expliquer les maculatures de l'enveloppe. Mademoiselle Solange ajouta « Oh, elle a dû tomber de la boîte !» Mais Catherine, qui n'y regardait pas de si près, remercia, prit la lettre, et soit par respect, soit pudeur, soit désir d'être seule pour la savourer à loisir, la glissa dans la poche de son tablier. Les demoiselles escomptaient l'impression que lui causerait cette lecture. Tant de réserve les déçut. Et sans le regard que promena mademoiselle Mathilde du feu bien allumé au salon, en ordre et au jardin étouffé sous la neige, mademoiselle Solange se fut laissée aller à quelques écarts de langage. Le lendemain, mademoiselle Mathilde surprit Catherine en train de fureter dans un placard de la salle à manger. « Que cherchez-vous, ma fille ?» lui dit-elle de sa voix mielleuse. « Oh, de quoi écrire ?» répondit la servante. Il n'y avait dans la maison qu'un encrier et qu'une plume enfermés dans le petit bureau du salon. Mademoiselle Mathilde répéta. « Ah, de quoi écrire ? Non, vous ne trouverez pas cela ici, je vais voir. » Et il rejoint sa sœur et lui fit part de la demande. Une telle audace révolta Mademoiselle Solange. « Ah, c'est pas assez qu'elle reçoive ces saletés, il faut encore qu'elle y réponde. » Et mon encre, et ma plume pour ça, plus souvent. Mais préfères-tu qu'elle en achète au village ? Articula mademoiselle Mathilde. De rage, mademoiselle Solange cassa sa laine. Mademoiselle Mathilde souleva le cylindre, prit l'encre, qui n'était plus qu'une pâte au fond du godet de verre côtelé, et la plume qui laissait au doigt une poussière de rouille. « C'est nous qui servons notre servante, maintenant !» ricana mademoiselle Solange. Mademoiselle Mathilde entrait déjà dans la cuisine et disait à Catherine « Voici, vous les rapporterez !» Les demoiselles de Saint-Béodat croyaient que cette concession serait la dernière. C'était mal connaître le cœur d'une fille amoureuse. Loin de satisfaire Catherine, cette correspondance ne fit que troubler son repos. Il ne s'écoulait guère de semaines sans qu'elle reçût une lettre, le lundi généralement, et quand cette lettre n'arrivait pas, elle était triste, languissante et inattentive. Puis, dès qu'elle l'avait reçue, la joie renaissait sur son visage, et pour répondre, elle attendait. Elle s'attardait après le dîner, jusqu'à 10 heures dans sa cuisine. Les premiers temps, elle demandait à mademoiselle Mathilde « Est-ce que je pourrais avoir la plume et l'encrier ?» Ensuite, elle les conserva dans le buffet, entre le bol où se figeaient les sauces et les croutons de pain desséchés. Janvier s'écoula sans apporter de changement. Dans la première semaine de février, Catherine prit prétexte d'une maladie de son père pour demander un nouveau congé. Mademoiselle Solange posa sur elle un regard glacé. « Êtes-vous sûre que ce soit pour votre père ?»« Oui, » répondit-elle presque sans embarras. Car le pli était pris. Et elle demandait cela comme un dû, prête à dire si elle refusait. « Oh ben alors je m'en vais. » Elle revint le lendemain à la nuit. Mademoiselle Mathilde, qui guettait derrière le rideau, avait cru voir, quelques instants plus tôt, deux formes arrêtées au bas de la côte. Elle ne lui en fit point la remarque et se contenta d'observer son visage rouge, ses cheveux en broussaille et le désordre de son corsage. Bientôt, un changement s'opéra dans son attitude. Une fatigue alourdit sa marche. Il lui arriva de s'arrêter au milieu d'un ouvrage et de passer sa manche sur son front. Elle semblait préoccupée et soupirait à tout propos. Cependant, elle recevait toujours ses lettres et toujours y répondait ponctuelle. Brusquement, un matin, à la fin de février, elle annonça, sans donner de prétexte, Il faut que j'aille chez nous. » Elle rentra cette fois, le soir même, harassée, traînant la jambe et si lasse qu'elle se coucha sans souper. Mademoiselle Solange se réjouit de l'avoir en cet état. « Oh, le drôle, Hiverne durera pas toujours, et alors ?» En attendant, se sachant indispensable, la fille en prenait à son aise. Le temps n'était plus où elle obéissait à un ordre bref, à un signe. Il fallait lui parler comme à une personne et ne pas dire « Faites ceci, faites cela, mais voulez-vous faire ceci, faire cela ?» Mademoiselle Mathilde prenait le mal en patience. Mademoiselle Solange ne se résignait pas à le subir. Elle en perdait le manger et le sommeil. « Oh, si cela continue, disait-elle, je tomberai malade. Quand je la vois, le sang me tourne. Et quand je me fais violence pour lui parler avec calme, une boule me monte dans le gosier et m'étrangle. Oh, je vois, ce sera plus fort que moi. » Et ce jour vint. Catherine lavait la cuisine. Sur la pointe des pieds, la jupe relevée, Mademoiselle Solange surveillait son travail. Il faisait si froid que, bien que l'eau fût à peine tiède, elle fumait sur les bras de la servante. Mais Mademoiselle Solange entendait que pas une parcelle du carrelage ne fût oubliée et montrait d'un doigt impérieux les places où la toile n'avait pas passé. « Ici, là, là encore, là, là !» Catherine, à genoux, obéissait mollement. Mademoiselle Solange s'obstinait. « Derrière le buffet, les tirer la chaise. Et ce quoi, hein? Oh, si les quoi en veulent et qu'ils approchent !»« Je suis fatiguée, » répondit Catherine. Alors Mademoiselle Solange perdit toute mesure. « Fatiguée, mais vous ne l'êtes pas pour rouler avec les hommes. Croyez-vous donc que nous soyons dupes de vos simagrées, qu'on ne sache pas ce que vous faites quand vous prétendez aller voir vos parents ?» Vos parents, vous vous imaginez que tout vous est permis, parce que nous avons eu la faiblesse de fermer les yeux sur vos cochonneries. Eh bien non, vous en avez assez, et si ça ne vous plaît pas, la porte. » Elle se tut à bout de souffle, soulagée d'avoir jeté ces mots comme on jette un poids qui vous étouffe, mais soudain effrayée de sa violence. Catherine allait dénouer son tablier, le lui lancer à la figure, partir en claquant la porte. Et ce serait de nouveau l'asservissement aux besognes humiliantes, le réveil dans la maison sans feu, tout ce qui leur avait été épargné jusqu'ici enfin. Mais au lieu de se révolter, Catherine éclata en sanglots. Mademoiselle Solange demeura stupéfaite, puis quelque chose comme un sourire détendit ses traits. Peu à peu, de menus incidents des semaines passées revinrent à sa mémoire. Elle se souvint des fatigues de la servante, des afflux de sang qui lui montaient au visage, du manger que l'on retrouvait intact dans son assiette, de l'alourdissement de sa marche, et, saisie d'un brusque soupçon, l'empoigna par les épaules. « Avouez que vous êtes enceinte !» Catherine fit oui d'un signe. Alors elle cria, féroce et triomphante, « Mathilde, Mathilde, voici du nouveau et du propre. Tiens, regarde-la. Tu vois pas? Mais elle est enceinte. Enceinte à pleine ceinture. Ah, c'est chez vos parents que vous passiez vos nuits. Sur les tas de fumier, oui, dans les étables. Et votre amant, quelques voyous d'auberge. » Sûre maintenant que la fille n'oserait répondre, elle s'en donnait à cœur joie. Pour un peu, elle lui jetait le nom de l'homme. Mais c'eût été avoué qu'elle avait décacheté la lettre, et cela elle ne le voulait pas. Mademoiselle Mathilde s'avança à son tour, frétillante de plaisir, regardant de ses petits yeux lubriques cette face ravagée, ce ventre rond. Plus calme que sa sœur, elle savait mieux ajuster ses traits, et tout de suite trouva la plaie vive. « Vous allez vous marier, sans doute !» « Se marier !» s'écria Mademoiselle Solange. « Se marier !» D'un clin d'œil, Mademoiselle Mathilde lui imposa silence. Catherine, un instant apaisée, sanglotait plus fort. « Enfin quoi? Il vous laissera pas avec ça ?» Catherine se tut. Mademoiselle Solange hurla. Oui ou non? Est-ce que je sais? Gémit la servante. Et en phrases entrecoupées, elle conta la pauvre histoire. Un garçon qu'elle aimait, elle avait fait la chose sans savoir. Est-ce qu'on pense dans ces moments-là? Sûr, il lui avait promis, mais il était parti pour le service. Elle ne se croyait pas prise. S'il avait su, quand il saurait? Ben, quand il saura, ricana Mademoiselle Solange, vous n'entendrez plus parler de lui. Pourquoi il lui écrit peut-être, insinua Mathilde, qui avait remarqué que depuis plus d'un mois, le lecteur ne s'arrêtait plus à leur porte. Puis, sans attendre la réponse, elle fit signe à sa sœur et sortit. « Je crois, lui dit-elle avec un sourire, que nous l'avons jusqu'au printemps. » « Je ne la garderai pas une heure de plus, » trancha Mademoiselle Solange. « Rien que de la voir, le cœur me lève. »« Ça ne se remarque pas encore beaucoup, » objecta Mademoiselle Mathilde. « Et puis veux-tu, Solange, il ne faut pas aller contre son intérêt. Nous ne sommes plus d'âge à supporter ce que nous supportions jadis. » Cette fois, Mademoiselle Solange ne se laissa pas convaincre. Arguments, prières, tout s'émoussait contre sa volonté. Elle avait eu trop de mal à secouer l'ordure dont l'acte de chair l'avait souillée pour en avoir constamment devant ses yeux le rappel. Sans compter que si aujourd'hui, crevant de peur à la pensée d'être jetée sur la route, la rouleuse tremblait demain, elle reprendrait de l'audace et pendant des semaines il faudrait voir ce ventre, ces mamelles de chienne pleine. Bah ! Elles discutèrent tout le jour. Et très avant, dans la nuit. À la fin, Mademoiselle Solange céda. On la garderait, soit, mais à la condition que dorénavant, elle ne prononça pas un mot plus haut que l'autre, ne prit pas prétexte de son état pour refuser aucune besogne, et surtout qu'au moment de faire ses couches, elle s'en alla. Catherine accepta tout ce qu'on voulut. La dernière phrase lui arracha une faible protestation. « Mais où j'irai, mademoiselle? Chez mes parents, ils me chasseraient. J'ai des amis, j'en ai point, et l'hôpital est à 30 lieues. »« Oh, ça vous regarde. Estimez-vous heureuse qu'on ne vous chasse pas à l'instant. » Catherine implora du regard mademoiselle Mathilde, qui parfois lui avait parlé avec douceur. Mais mademoiselle Mathilde comptait à la loupe les points d'un canevas. Alors elle sortit, la tête basse. Avril arriva et avec lui les nuages qui salissaient le ciel depuis des semaines disparurent. L'air était encore froid, les matins piquants. Déjà, pourtant, le soleil se montrait aux belles heures et des bourgeons naissaient à la pointe des branches. Bientôt, les feuilles s'ouvrirent. Un rosier donna sa rose, un lilas fleurit contre le mur. Et des hirondelles rayèrent le silence de leur crise affairée. « C'est maintenant qu'elle va partir !» confia Mademoiselle Solange à sa sœur. Elle ne partit pas, et se vit au contraire plus humble, ne refusant aucun effort, même s'il s'agissait de se traîner sur les genoux, de porter de lourdes charges ou de lever les bras pour accrocher les rideaux, ce qui manquait parfois de la faire défaillir. Les demoiselles feignaient de ne pas remarquer sa pâleur, le voile de ses yeux, le balancement de son corps. À toute heure, c'était un ordre nouveau, une pièce à nettoyer, un meuble à déplacer. Quand la maison eut été retournée de bas en haut, elles lui trouvèrent des occupations dans le jardin. Des allées envahies par l'herbe à dégager, des arbres fous à ébouder. Et quelquefois, à bout de force, Catherine levait vers elle un visage suppliant. Mademoiselle Solange se tournait alors vers sa sœur et posait des questions banales d'un ton décaché. « T'as pensé à ci? Tu as noté cela ?» Cette attitude les dispensait d'avoir l'air de comprendre. Depuis ce matin où elles avaient dit ce qu'elles avaient à dire, elles s'étaient données pour règle de n'y plus faire allusion. Il y avait près d'elle une sorte d'animal domestique qui mangeait et dormait sous leur toit, en échange de quoi il travaillait selon la règle. Le reste, elle l'ignorait. Cependant, la grossesse de Catherine devenait de plus en plus apparente et mademoiselle Mathilde comptait sur ses doigts. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, oh, ce sera pour septembre. En août, son ventre enfla au point que mademoiselle Solange prédit « Mais va coucher avant terme !»« Mais ce sera encore ce qui pourrait lui arriver de plus heureux, » jugea mademoiselle Mathilde. « Qu'elle s'arrange, » ricana l'aînée. « Nous a-t-elle demandé conseil pour se faire basculer le long des meules ? Alors, non !» Malgré cela, la marche de cette maternité les tenait en éveil. Une curiosité tenace et l'impatience du dénouement les faisaient fureter partout. Septembre arriva sans que l'événement se produisît. Un soir, elles trouvèrent Catherine dans la cuisine, à moitié couchée en travers de la table et gémissant. Elle souffrait si fort qu'elle ne les avait pas entendues rentrer. « Ce sera pour cette nuit !» souffla mademoiselle Mathilde à l'oreille de sa sœur. Mademoiselle Solange appliqua la main sur l'épaule de la servante et désigna tour à tour son ventre et la porte. « Vous n'avez pas oublié ce qu'on vous a dit ?» Des assiettes restaient sur le buffet. Catherine se traîna jusqu'au meuble, les prit entre ses doigts tremblants et les plongea dans la bassine. Ah, elle n'était plus arrogante aujourd'hui. Le temps était loin où, quand elle n'avait pas reçu sa lettre du lundi, il fallait lui parler avec précaution et tolérer qu'elle conservât la plume et l'encrier dans sa cuisine. Les demoiselles se rappelèrent cela avec de petites exclamations de pensionnaires. « Ah, tu te souviens de ces façons d'annoncer « je pars » ?»« Oui, et la fois qu'elle revint des poitrailliers. Ben, c'est ce jour-là qu'elle s'est fait prendre. Ou un autre, au point la saleté !» Mademoiselle Solange pressa la main sur sa bouche comme pour prévenir un hoquet. Ensuite, elle se mit presque à rire. L'odieux de l'acte s'effaçait devant le ridicule de ce corps difforme, de ce baquet monstrueux dont le poids faisait trébucher la fille à chaque pas. Elle ne pouvait penser à cela sans évoquer le souvenir d'une chienne errante, si pleine que son ventre traînait sur l'herbe, qui était venue mettre bas dans un fourré 7 chiots grouillants qu'elle et sa sœur avaient jetés dans la mare. Après cela, la mère, privée de ses petits, avait rôdé 3 nuits autour de la propriété en hurlant à la mort. Ce soir-là, Catherine monta dans sa chambre sans souper. Le lendemain, qui était un dimanche, elle ne descendit pas à l'heure accoutumée. Dans la cuisine, tout était en ordre, le pichet rempli de lait, la cafetière, les bols, le sucrier et les serviettes placées sur la table pour le déjeuner matinal. « Est-ce que par hasard, » émit Solange, mademoiselle Mathilde alla jusqu'à la cage de l'escalier et rappela « Catherine, Catherine !» Pas de réponse. « Peut-être est-elle dans le jardin, appelle voir !» Mais, ici comme là, leurs cris demeurèrent sans réponse. Alors elles revinrent dans la maison. Cette fois, plus de doute, la fille était partie. « Oh, beau débarras !» s'éclaira mademoiselle Solange. « Il faudra s'assurer si elle n'a rien emporté. »« Oh, fit Mathilde, je crois pas, elle était honnête. » Elles demeurèrent un instant silencieuses. Au fond, ce départ qu'elles avaient exigé les contrariait. « Je serais curieux de savoir où elle est allée, » dit mademoiselle Mathilde. Mademoiselle Solange exprima par un geste évasif que cela lui était complètement indifférent. Cependant, lorsque vers 9 heures, il leur fallut se résoudre à faire leur lit, elles éprouvèrent les premiers ennuis. L'habitude de ne plus s'occuper des travaux du ménage les avait rendues paresseuses. Les matelas leur semblèrent lourds. Et ce fut bien pis quand il s'agit de préparer le repas. Ne sachant plus où étaient les choses, elles ouvrirent 10 fois les placards avant de trouver ce dont elles avaient besoin. La propreté méticuleuse de tout ce qu'elles découvraient les déconcerta. Il aurait été agréable de constater un manque de soin, quelqu'une de ces négligences qui permettent de dire « Pah, dans quel état cette fille laissait la maison ?» Au contraire, tout attestait ici un ordre strict et un constant souci d'honnêteté. Vers 11 heures, quand Mademoiselle Solange mettait le couvert et que Mademoiselle Mathilde soufflait sur le charbon de bois, la porte s'ouvrit et Catherine parut. « Ah, vous voilà !» commença Mademoiselle Solange. La fille, appuyée au chambranle, était si pâle, l'expression de son visage où les cheveux s'emmêlaient si effarés, qu'elle s'arrêta. Catherine, pliée en deux, balbutiait de vagues excuses. Sa voix venait de loin, et on pouvait compter le temps que ses yeux mettaient à se fermer et à s'ouvrir. D'un geste machinal, elle prit la nappe et couvrit la table, disposa les verres et les assiettes, mit le poêle sur le feu, cassa les œufs et jeta leurs coquilles, tira de l'eau du robinet et prit la bouteille de vin dans le placard. Elle accomplissait sa besogne comme une automate, la bouche entrouverte, le souffle court. À un moment, elle s'adossa au mur, la tête jetée en arrière, un bras sur le front. Les sœurs échangèrent un regard et sortirent à reculons. Mademoiselle Mathilde était livide. Mademoiselle Solange combrait sa taille pour ne pas laisser voir qu'elle tremblait. La cadette dit enfin « Tu as remarqué ?» L'aînée fit oui d'un signe. De nouveau, elles se turent, paralysées par l'émotion. Puis Mademoiselle Mathilde murmura, l'oreille tendue vers les bruits de la cuisine « C'est fait, n'est-ce pas ?» Elle n'osait y croire. Solange, avec son autorité de femme, confirma ses doutes. Alors elles se mirent à parler vite, rapprochées, comme des complices qu'effraient le bruit de leur voix. « Tu l'as vu ? Elle a le ventre plat et une figure, oh, comme elle claque des dents !» La merveille de la maternité les tenait haletantes. À quelques mètres d'elle, un enfant était né dans l'abandon du silence. Elle savait que l'accouchement ne va pas sans d'atroces déchirements. Une fois qu'elle passait près de la maison d'une femme en Gésine, elle s'était enfuie, épouvantée par les cris qu'elle poussait. Mais comment donc n'avait-elle rien entendu? Leurs questions s'entrecroisaient. Elle ne savait qu'y répondre, restant presque pareille, malgré leur âge à ses enfants qui cherchent à déchirer le voile qu'on jette sur eux sur les choses les plus simples et les plus grandes de la vie, la naissance et la mort. Elles émettaient des hypothèses. Mais c'est quand elle est montée que les douleurs l'ont prise. Mais à quelle heure ça t'y pu arriver? Ça n'a pas dû être long. Oh, ce qu'on sait! Mais vers minuit, j'ai cru entendre comme une plainte. Moi aussi. Était-ce elle ou bien? Oh non, non, il paraît que ça crie plus aigu. Ben, montons dans sa chambre, dit Mademoiselle Solange, prise d'une résolution subite. Elles gravirent l'escalier et s'arrêtèrent devant la porte. Mademoiselle Mathilde frémissait de colère. Mademoiselle Solange savait que répéter « Chez moi, chez moi !» La porte ouverte, la mansarde apparut, éclairée d'un jour gris, tel le matin où Catherine s'y était éveillée près d'une année plus tôt. Un autre automne commençait déjà, et le froid qui venait de la tabatière mal jointe les fit frissonner. Mademoiselle Solange souleva une vieille jupe placée sur une chaise, ouvrit une malle où Catherine rangeait ses bardes, avisa le lit, tira violemment la courte pointe à ramage fané qui le couvrait, et tressaillit. Les draps étaient maculés de sang, le traversin crevé et laissait couler ses plumes, et des traces de doigts rouges se voyaient sur le mur. S'il lui fut resté un doute, ses taches eussent suffi à le dissiper. L'accouchement avait eu lieu ici. Mais alors, mais qu'est-ce que Catherine avait fait de l'enfant? Un même soupçon les effleura, si terrible qu'elles n'osèrent d'abord le formuler. La première, Mademoiselle Mathilde, risqua. L'aurait-elle tuée? Mademoiselle Solange baissa la tête. Et elles demeurèrent immobiles, accablées soudain d'une mortelle angoisse, leurs yeux allant des draps souillés aux digitations roses plaquées sur le mur, aux rectangles de feutre servant de descente de lit fraîchement lavés. Pas un instant l'idée de ce dénouement n'avait traversé leur esprit, et voilà qu'il apparaissait certain, et fatal aussi. Depuis des semaines, il avait dû hanter le cerveau de la fille. C'est à cela, sans doute, qu'elle pensait, quand, affolée sur l'escabeau de la cuisine, elle demeurait absorbée au point de ne pas répondre à l'appel de son nom. Elle y pensait aussi les nuits qu'on voyait de la lumière filtrer sous sa porte. Un étrange silence, si pesant qu'elle n'en avait jamais connu de semblable, ensevelissait la maison. Il n'y a que la mort pour vider ainsi l'air de tout bruit. Quand elle lisait par hasard dans quelque vieux journal le récit d'un infanticide, elle n'éprouvait aucune émotion. Mais à cette heure, et parce qu'il avait été commis chez elle, le crime leur paraissait monstrueux. Mademoiselle Solange finit par décider. Ben, il faut la faire arrêter. Oui, il le faut, répéta Mademoiselle Mathilde. Mais il faut l'interroger, il faut qu'elle avoue, dit Mademoiselle Solange. Oui, il le faut, répéta Mademoiselle Mathilde. Mais elle prononçait cela sans conviction. À mesure que passaient les minutes, un froid descendait sur leurs os. N'est-elle pas, en une certaine mesure, responsable de ce meurtre? Elle n'avait pas besoin de parler pour se comprendre. Les mêmes doutes et les mêmes frayeurs naissaient au même instant sous leur front. Quand ça saura, quand les gendarmes viendront, risque Mademoiselle Mathilde à voix basse. Ben, qu'ils viennent, prononça durement Mademoiselle Solange. Est-ce ta faute? Est-ce la mienne? Quel exemple cette misérable va-t-elle trouver ici, autre que celui de la vertu? Et dire qu'elle a osé paraître devant nous? Oh, il ne restera pas longtemps, je te le jure. Allons, viens. Une demi-heure s'était écoulée sans qu'elles y prissent garde. Mademoiselle Solange dit en entendant sonner midi. Ben, tu dois avoir faim. Mademoiselle Mathilde fit non d'un signe. Elle se sentait la tête creuse et le dosier noué. « Eh bien, moi, j'ai faim !» déclara sa sœur. Elle mentait pour donner du courage à sa cadette. Dans la cuisine, elles trouvèrent leur repas refroidi sur la table, mais point de servante. « Mais où est-elle ? » s'étonna Mademoiselle Mathilde. « Oh, diable !» répondit Mademoiselle Solange. « Où veux-tu qu'elle soit ?» En nous voyant monter, elle a compris tout est des découverts et a filé. Les gendarmes sauront trouver sa trace. Allez, assieds-toi et déjeunons. » Mademoiselle Mathilde creva d'un crouton de pain le jaune de son œuf, puis repoussa son assiette. « Oh non, je ne peux pas. » Mademoiselle Solange expliqua son geste identique en disant « Oh, c'est pas mangeable, c'est glacé. » La pluie tambourinait au vitre. Par la fenêtre, on voyait des flaques dans le jardin, une bêche appuyée contre un arbre, du linge tendu sur une corde et que l'eau relevait. Du pauvre linge, une chemise de grosse toile, des bas tant étant reprisés que cela faisait des boules aux talons et un caraco de pilou. « On devrait rentrer ça !» proposa Mademoiselle Mathilde. « Ben, quoi bon ?» dit Mademoiselle Solange en haussant les épaules. Où elle sera ce soir, elle n'en aura pas besoin. Mademoiselle Mathilde tressaillit. Elle regardait le chemin menant à la rivière où jadis on avait repêché le corps de leur servante idiote. Alors Mademoiselle Solange sentit sa peau se hérisser et questionna d'une voix à peine intelligible « Tu crois tout de même pas que... » D'un hochement de tête, Mademoiselle Mathilde indiqua que telle était sa pensée. Celle-ci, après l'autre, lasse de vivre, était allée là-bas chercher le seul repos. Ainsi la mort germait dans leur maison. Mais quelle détresse coulait donc de ces murs, quel désespoir s'exhalait de ce jardin. Une frayeur superstitieuse s'empara d'elle. Mademoiselle Solange ouvrit la porte, alla jusqu'au puits et cria « Catherine, Catherine !» « Elle est peut-être à la buanderie !» émit Mademoiselle Mathilde. Elle y courut et revint sans l'avoir trouvée. Le dernier espoir s'évanouissait. Sans prendre la précaution de changer de bottines ni de nouer un fichu autour de leurs épaules, elles partirent sur la route. Dans leur hâte, elles avaient négligé de fermer la porte. Mademoiselle Mathilde esquissa un mouvement en arrière pour réparer cet oubli. Mademoiselle Solange l'entraîna. Tout en dévalant le raidillon, elle calculait. Bon, il était 11 heures quand nous l'avons quitté. Du train dont elle marche, sûrement il n'y est pas encore. À mi-côte, elles croisèrent un gamin. T'as pas rencontré notre servante ? Non. Mais aurait-elle donc couru si vite ? Dit Mademoiselle Solange. Oh, est-ce qu'on sait ? Bredouilla Mademoiselle Mathilde. Elles atteignirent la rivière dont l'eau boueuse charriait des débris de branches. Sur la berge, nulle trace de pas. Mais si elle avait fait ça, serait-elle ici et pas ailleurs, assura Mademoiselle Solange. Plus haut, ce sont les bois, plus bas, il y a les maisons. Oh non, bon, elle s'est sauvée, simplement. Elles reboussèrent chemin, non point rassurées, mais un peu soulagées tout de même. De temps en temps, Mademoiselle Solange marmonnait. « Ce tuyau, tu lui prêtais plus de cœur que d'en a. » Elles s'arrêtèrent. Soudain, Mademoiselle Mathilde se frappa le front. « Et la grange où nous n'avons pas cherché, la grange où il y a des cordes. » Elle n'eut pas besoin d'en dire davantage. Mademoiselle Solange ramassa ses jupes et toutes deux se remirent à courir. À quelques mètres de leur maison, elles rejoignirent le gamin qui les avait croisés en descendant. « Tu n'as pas vu notre servante ?» jeta Mademoiselle Solange sans presque ralentir. « Non ?» La porte poussée par acquis de conscience, Mademoiselle Mathilde appela. « Catherine ! Catherine ! Catherine !» Elle était hors d'haleine et sa petite voix perçante n'allait pas loin. « Catherine ! Catherine !» cria Mademoiselle Solange. En passant, Mademoiselle Mathilde fit un crochet jusqu'à l'écurie. Des poules effarées se levèrent avec un grand bruit d'ailes. L'une, dont les poussins fuyaient affolés, s'insinua entre ses jambes et la fit tomber. De l'extérieur, Mademoiselle Solange criait « Viens, viens, n'ayez pas, sûrement !» Mademoiselle Mathilde la rejoignit en boitant. « Allez, va devant, va. Tu t'es fait mal. Oh non, non, j'ai rien !» En vérité, elle ne sentait pas plus sa douleur que sa sœur ne sentait son oppression. Avec cela, cette terre qui fuyait sous les semelles et collait aux talons. Sur le ponceau vermoulu, Mademoiselle Mathilde glissa et se releva les mains et le ventre enduits d'une mousse glaireuse. À quelques mètres de la grange, elles durent faire halte, n'en pouvant plus. Leurs épaules, leurs cheveux et leurs visages ruisselaient. Mademoiselle Solange s'assit sur une pierre, la poitrine chaude, comme si chacune de ses aspirations avait attisé un charbon brûlant, et hoqueta, une main pressant sa poitrine, l'autre tendue vers la porte. « Vite, vite !» La frayeur, plus encore que la fatigue, la paralysait. Prête à entrer, mademoiselle Mathilde recula. « Je n'ose pas. Souffle encore un peu. Nous rentrerons ensemble. » Mademoiselle Solange se remit sur ses pieds et elles ouvrirent. Tout de suite, leurs têtes se levèrent. Mais d'abord, elles ne distinguèrent rien qu'un enchevêtrement de traverses et l'inexplicable fouillis de loques accrochées aux solives. Ensuite, se guidant sur la lumière qui tombait d'une lucarne, elles avancèrent, se heurtant aux meubles vermoulus, aux sommiers qui sonnaient avec un triste bruit de vieilles cloches. Elles eurent bientôt fait le tour du Galta, et il ne restait qu'une soupente à quoi l'on accédait par une échelle. Du temps qu'elles étaient petites et que leurs parents vivaient, elles s'y réfugiaient pour jouer à leur aise. Que d'objets disparates n'avaient-elles pas transportés là ? Chaises cassées, dredons hors d'usage, bassines sans fond, plats ébréchés, robes tant et tant de fois transformées que les coutures n'arrivaient plus à se joindre, journaux qu'on collectionne sans but et qu'on jette sans raison. C'était comme un cénit caché dans un trou de mur où les oiseaux misérables entassent tout ce qu'ils trouvent. Leur dernière visite à ce réduit remontait à plus d'un quart de siècle. Depuis, l'échelle était demeurée couchée sur le sol. Paul s'en souvenait parfaitement. En la voyant dressée contre le mur, elles se mirent à claquer des dents et mademoiselle Mathilde serra le bras de sa sœur. Il ne s'agissait plus ce coup-ci de pressentiment ou de crainte. Quelqu'un était monté. Et qui pouvait être ce quelqu'un, sinon Catherine ? Et pourquoi était-elle montée ? Sinon pour... Tiens l'échelle, j'y vais, dit mademoiselle Mathilde. À mi-chemin, elle risqua un regard en arrière. Je tiens, fit mademoiselle Solange. Mais mademoiselle Mathilde craignait moins une chute que le spectacle qui l'attendait là-haut. Va donc, ordonna mademoiselle Solange. Elle se décida, levant les pieds et les posant avec lenteur. Son front affleura le plancher, son menton le dépassa. Alors elle eut haut le corps. « Tu vois ?» cria mademoiselle Solange. « Chut, chut » fit-elle un doigt posé sur la bouche. Mademoiselle Solange trépigna. « Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, mon Dieu ?» Elle fit de la main un geste qui commandait le silence et souffla. « Monte !» Mademoiselle Solange obéit. Et soudain, arrivée au dernier échelon, elle poussa un cri et s'agenouilla sur les lattes. Devant elle, assise sur un tas de chiffons, souriante, le bras gauche plié sous une toute petite chose, soutenant son sein entre l'index et le médius de la main droite, Catherine donnait à boire au nouveau-né. Au bruit, elle avait d'abord levé la tête et reculé d'instinct. Maintenant, elle fixait sur ses maîtresses ses yeux humides et doux. Mademoiselle Solange se souvint d'un regard pareil qu'avait tendu vers sa pitié la chienne aux sept petits, et secouée d'une émotion telle qu'elle n'en avait jamais éprouvé de pareil, risqua un pas, puis un autre, et allongea la main. « On ne lui fait pas de mal !» supplia mademoiselle Mathilde. « Lui faire du mal, oh !» Et le touchant, avec un geste maladroit et tendre de grand-mère, elle dit d'une voix qu'elle ne se connaissait pas, « Pauvre petit, pauvre petit !»